Sadik Bet, Amoud Aleph, dans les lignes larges. Qu'est-ce qu'il y a? C'était quoi la blague? Un Sadik Bet, c'est ça, c'est ça. C'est comme lorsque on rentre dans la forêt et qu'on voit que tous les arbres ont été coupés. Et alors c'est le Chassid de Brassav qui explique que comme c'est Tu Bishvat, c'est Rosh Hashanah des arbres, ils sont tous à Ouman. Bon, Vehamar Rabbi Elazar. Nous sommes ici dans une série d'enseignements de Rabbi Elazar qui s'enchaînent les uns sur les autres. On avait vu que la Dea, la connaissance, était équivalente au Bet Amigdash. C'est-à-dire, le Bet Amigdash est le lieu de la connaissance de Dieu. Or, si on est capable d'accéder à la connaissance, même sans passer par le Bet Amigdash, c'est comme si le Bet Amigdash était construit de son vivant. C'est-à-dire que le Bet Amigdash, c'est l'homme lui-même. Je crois avoir cité une source qui indique que le cœur peut être considéré comme le Kodesh HaKodashim, comme le Saint des Saints de la personne humaine. Ve'amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar ajoute, Kol Adam Shiyesh Bodea Lesof Mitasher, tout celui qui est doué de connaissance, à la fin s'enrichit. Amen. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Uvdaat, par la connaissance, Hadarim imal'u, les chambres se rempliront. Kolhon yekar venaim, de toute richesse, rare et agréable. C'est-à-dire que la connaissance entraîne la richesse. C'est quand même bizarre. La connaissance, c'est du spirituel. La richesse, c'est du matériel. Pourquoi y aurait-il un rapport entre le spirituel et le matériel? Mais on pourrait dire au contraire que la connaissance, celui qui se consacre à la connaissance, ne peut pas être riche. Parce que pour être riche, il faut se consacrer à d'autres choses. Il faut se consacrer au bien, à l'acquisition, enfin beaucoup de choses, des investissements qui prennent beaucoup des efforts de l'homme. Et donc on ne peut pas consacrer sa tête à la connaissance spirituelle, quand on est occupé à devenir riche. Alors pourquoi est-ce que la Guémara nous dit que celui qui est doué de connaissances, finalement devient riche? C'est, en fait, je pense qu'il faut insister sur le mot « lesof ». C'est à la fin qu'il devient riche. C'est-à-dire, si on veut être riche tout de suite, alors il faut s'occuper de richesse. Mais si on veut être riche à la fin, alors il faut s'occuper de spiritualité. C'est-à-dire que ce qui est vraiment important, c'est la connaissance. Et puis la richesse, elle viendra de par elle-même. C'est-à-dire, on est finalement comblé dans ses nécessités, dans ses besoins, parce qu'on est habité de connaissances. C'est-à-dire quoi qu'on est comblé? Est-ce que ça veut dire qu'on devient très riche? Certainement pas. Ça veut dire simplement qu'on a la suffisance. C'est-à-dire, puisque le principe des Chachamim, c'est « Ezeo Ashir Asamer Bechelko », qui c'est qui est riche? C'est celui qui est content de sa part. La connaissance nous permet d'être content de notre part. Et donc, on devient riche par la connaissance. C'est littéral, parce que si vous avez beaucoup de biens et que vous n'en êtes pas content, eh bien, c'est comme si on n'avait rien. Tandis que quand on a un peu de biens et qu'on en est content, on est véritablement riche. Maintenant, il y a aussi autre chose. Vous savez que, d'après la Guémara, on ne peut être prophète que si l'on est riche. Pourquoi? Parce que la richesse, c'est la plénitude, c'est la perfection de la personne humaine. C'est pas la seule perfection. Il y a plusieurs perfections qui sont Chacham, Gibor et Achir. Il faut être sage, vaillant et riche. Mais si on manque de quelque chose, d'un des éléments de la vie, alors on n'a pas l'esprit totalement équilibré. C'est pour ça que la richesse sert de substrat à la prophétie. Mais non, souvent la richesse empêche l'étude. Quand on est riche, on est moins intéressé aux choses spirituelles. Ça arrive aussi. Mais il s'agit donc de celui qui sait mettre, qui a une échelle véritable. Ce qui met au-dessus de l'échelle, c'est la connaissance. Et puis, par voie, disons, de conséquence, il devient riche. Et donc, j'en étais... Ah, c'est ça. Uveda Tradarim Imalou. Ve'amar Rabbi Elazar. Maintenant, nous avons un autre enseignement de Rabbi Elazar, extrêmement surprenant. Rabbi Elazar était un rabbin juif. Les rabbins juifs, ils sont charitables. Nous allons voir un enseignement de Rabbi Elazar qui semble aller contre cette image. Amar Rabbi Lazar, kol adam shen bodea, tout homme qui n'a pas de connaissance, assur le rachem alav, il est interdit de le prendre en pitié. Shenemar, ainsi qu'il est dit, ki lo ambinot hu, car ce n'est pas un peuple d'entendement. Alken lo yirachamennu osehu, c'est pourquoi celui qui l'a fait ne le prendra pas en pitié. Veyotsero lo yachonanu, et son créateur ne le graciera pas. Donc c'est pas seulement Rabbi Lazar qui a l'air pas sympa, c'est également le prophète qui dit que si on n'a pas de la connaissance, il ne faut pas être pris en pitié. Également cité dans l'introduction du Messilat Yesharim de Ramchal, Kol Mishen Bodea, ou bien Kol Adam Shen Bodea, Asur le Rachem Alav. Quelle est la logique morale de cet enseignement? C'est très simple. Si on n'a pas la connaissance, le seul moyen de faire acquérir la connaissance, c'est de ne pas être pris en pitié. Parce que si on a pitié de moi alors que je suis sans connaissance, eh bien je resterai sans connaissance. Ce qui est vraiment misérable. C'est-à-dire si quelqu'un, par exemple, ne veut pas prendre d'initiative, par exemple, pour faire avancer sa vie. Alors on dit, c'est très bien, mon fils reste comme ça. On le transforme en une patate douce, installée sur un canapé, qui ne fout rien de sa vie. Tandis que si on dit, tu veux manger, eh bien, il faut travailler pour ça. Eh bien, on ne l'a pas pris en pitié. C'est comme ça, justement, qu'on le fait avancer. C'est-à-dire, c'est par pitié qu'il ne faut pas le prendre en pitié. Vous avez compris? Voilà. Bon. Oui. Ah, très bien, très bien. C'est-à-dire, on a le sentiment que cette histoire de connaissance s'est vraiment déplacée, puisque la Torah est contre la connaissance, n'est-ce pas? Puisqu'elle a interdit au premier homme de manger de l'arbre de la connaissance. C'est très grave, la connaissance. La Torah préférait l'ignorance, n'est-ce pas? Hein? Non, effectivement, c'est ce qu'on peut penser. D'ailleurs, il y avait un goy du nom de Blaise Pascal, qui, tout philosophe et scientifique qu'il était, considérait que l'intelligence est un obstacle à la foi. N'est-ce pas? Ce qui est effectivement très chrétien, n'est-ce pas? La connaissance qu'on a... Hein? Oui, mais quoi qu'il en soit, la Torah emploie le même terme, l'arbre de la connaissance. Le mot d'art est employé ici et là-bas. Alors, dans ce cas-là, Torah aurait dû employer un autre mot, je sais pas, Yedia ou Havana ou je sais pas quoi. Tandis que là, on nous dit d'art. Oui. Très bon la citronnade. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Donc comment comprendre ça? En fait, c'est une grave erreur de lecture de la Torah. Je crois que nous avons étudié ça dans le livre de Bereshit. C'est que dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, il fallait l'ordre donné au premier homme, c'est de manger de l'arbre de la connaissance. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire que le projet, c'est la connaissance. Et il y a tout un problème, c'est que il y a un projet de connaissance, il y a un danger de la connaissance. Le jour où tu en mangerais, tu mourras. Donc il faut faire quelque chose pour se sauver de la mort. Conclusion, il faut s'immuniser. Tu vas quand même pas lui. Bon, il faut s'immuniser contre la mort. Et alors, non seulement on peut manger de la connaissance, on a le devoir d'en manger. Comment s'immuniser contre la mort? En mangeant l'arbre de la vie. Ce qui veut dire que la Torah, non seulement n'est pas contre la connaissance, elle encourage la connaissance, elle exige la connaissance, avec comme base l'arbre de la vie. Oui? Non. Il faut d'abord avoir de la vie. Une fois qu'on a de la vie, la connaissance agrandit la vie.
Mais pourtant, il y en a qui avaient beaucoup de connaissances qui sont morts jeunes.
La vie, c'est quoi? C'est la vie éternelle. D'accord? C'est-à-dire la liaison avec l'infini, qui peut se réaliser aussi bien dans le Olam Hazé que dans le Olam Haba. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines personnes qui avaient beaucoup de connaissances et qui n'avaient pas de vie. Et la connaissance les met à mort. Oui. Le travail sur les midot, c'est une partie de la vie. Il y a en français une belle expression qui dit qu'il faut avoir des têtes bien faites avant d'avoir des têtes bien pleines. C'est important. La tête bien faite, du point de vue de la Torah, c'est celui qui lie à Etzachayim, l'arbre de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs. Les valeurs se trouvent entre autres dans la Torah, puisque la Torah est appelée Etzachayim. Et puis, une fois qu'on est branché, comme on dit, ce qui se dit également en termes populaires, chebran, n'est-ce pas ? Une fois qu'on est branché, la connaissance permet d'élargir le champ de la vie. Voilà. Donc vous voyez l'importance donnée à l'arbre de la connaissance selon les Chachamim. Mais je voudrais agrandir la question. Vous savez que d'après les kabbalistes, quand on dit l'arbre de la vie, on parle du sod, de la partie ésotérique de la Torah. Et quand on dit Etza Da'at, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance, il s'agit de la partie révélée de la Torah, le Niglé, Niglé Nistar. Il y a un problème. C'est que on a vu que d'après l'analyse du texte dans la Torah, il faut d'abord manger de l'arbre de la vie, et après seulement de l'arbre de la connaissance. Or, nous avons une instruction de nos maîtres qu'on ne peut pas étudier la Kabbalah tant qu'on n'a pas étudié la partie révélée de la Torah. Donc il faut manger l'arbre de la connaissance avant l'arbre de la vie. Ah, problème. Vous voulez une réponse? Pourquoi pas, effectivement. La réponse est qu'il faut commencer par l'arbre de la connaissance, mais il faut apprendre la partie révélée de la Torah chez un maître qui est habité par la partie secrète de la Torah. C'est-à-dire, si vous pouvez étudier donc la Gemara chez quelqu'un qui connaît la Kabbalah. Et donc, il y a un rayonnement de sa vie intérieure sur la vie extérieure. Bon, nous allons donc continuer. Ve'ama Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait, Kolanoten pito le mishen bodea, tout celui qui donne son pain à celui qui n'a pas de connaissance, il sourine baimalav, des souffrances viennent sur lui. Sheneemar lahmecha yasimu mazor tahtecha entevu nabo. Ton pain amènera la souffrance à ta place, car il n'a pas de connaissance. Ve'en mazor et la yisourine, le mot mazor signifie souffrance. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, vayar Ephraim et Holio, Ephraim vit sa maladie. Vihuda et Mazoro et Yehuda vit sa maladie, sa souffrance. Donc, faites attention de ne pas alimenter celui qui n'a pas de connaissance. Il va amener des souffrances. Comment est-ce que les souffrances arrivent? Eh bien, par l'ignorant qu'on aura nourri. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas de connaissance, c'est quoi alors? C'est un barbare. Si vous alimentez le barbare, il va se venger contre vous. Vous voulez un exemple tout bête? Il y a une grande puissance sur Terre qui a donné des armes à une milice qui s'est révoltée contre un régime dictatorial au Proche-Orient pour renverser la dictature. Ils ne sont pas simplement rendus compte que la milice en question qu'ils alimentaient était encore pire que la dictature qu'ils voulaient renverser. Et ça a été donc, il y a eu des résultats catastrophiques sur le plan humanitaire et tout le reste, n'est-ce pas? C'est ça qui s'appelle donner la nourriture à celui qui n'a pas la connaissance. D'accord? C'est quand on dit il n'a pas la connaissance, c'est une manière très polie de dire à un barbare. D'accord? C'est-à-dire, un barbare, c'est quoi un barbare? C'est un déséquilibré, c'est tout. Il n'y a que des... Les barbares ne sont pas des barbares par idéologie, ils sont barbares parce qu'ils sont déséquilibrés. D'accord? Bon. Où est-ce qu'on en était? Ve'amar Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait. Non, c'est donc des enseignements en chaîne, oui. La connaissance, ça veut dire la connaissance de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et la connaissance de Dieu est liée à la connaissance tout court, c'est-à-dire avoir du jugement et de l'entendement. Exactement. C'est-à-dire, si quelqu'un est bête, il a toutes les chances d'être également méchant. Ah, vous pouvez faire un bête et méchant. Oui ? Ah, comment est-ce qu'on acquiert la connaissance ? Il y a plusieurs manières d'acquérir la connaissance. La manière centrale, c'est l'étude. Étude. Quoi ? Ben, de ce qui donne la connaissance, ça peut être la Torah, ça peut être les sciences, ça peut être la morale. La deuxième manière, c'est par le rayonnement d'une personne qui est habitée de sagesse, à la manière des chassidim. Il y a une troisième manière, qui est assez exceptionnelle, mais ça arrive parfois, par science infuse, c'est-à-dire une sorte d'intervention qui vient de la neshama de l'homme, et qui étincelle en lui. C'est exceptionnel, mais ça existe aussi. Voilà. Mais en général, le plus recommandé, c'est l'étude. Alors, c'est ce que nous faisons ici. Nous étudions un texte pour acquérir la connaissance. Voilà. Oui ? Alors, l'étude du chol aussi, c'est tout un travail. Parce que l'étude du chol, elle peut être nocive, elle peut être bénéfique. Par exemple, si vous voulez apprendre comment faire une bombe atomique, intéressant, non ? Ça peut servir à des tas de choses. D'accord ? Il faut savoir. C'est pas des connaissances qu'on donne à tout le monde. Bah oui, dans la Guémara, on acquiert la connaissance véritable, authentique. C'est très important, la Guémara. La Guémara, ça nous permet de savoir qui nous sommes. Ça veut évidemment savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Il y a quelque chose d'assez remarquable dans la Guémara. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la Guémara s'occupe des moindres petits détails de la vie. Or, dans les grandes religions, dans les spiritualités, on s'occupe de beaucoup de choses, mais on ne s'occupe pas du petit détail. Parce qu'on n'a pas, on ne pense pas qu'en fait, le Créateur du monde manifeste sa voix à travers le détail. Et le chidouche de la Guémara, c'est que ça rentre même dans le détail. Enfin. C'est la raison pour laquelle c'est la Guémara qui est étudiée, dans les yeshivot, par exemple. Voilà. Oui ? Comment ? Sans tout. Non, c'est très important. Si on ne sait pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle là, c'est dangereux. D'accord ? Donc, pour faire la lutte, il faut aller chez Guémara. Ve'ama Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait, nous continuons donc les enseignements en chaîne de Rabbi Elazar. Kol Adam Shen Bodea, tout homme qui n'a pas la connaissance, les sauf, golé, finalement, part en exil. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, la reine Gala Ami Mibelidaat, c'est pour cela que mon peuple est parti en exil par absence de connaissance. Mibelidaat, parce qu'il n'avait, par privation de connaissance, donc le peuple est parti en exil. Ah bon ? Quel est le rapport entre l'absence de connaissance et l'exil ? Alors, évidemment, on peut dire, c'est les souffrances. On a dit, il n'y a pas de connaissance, il y a des souffrances. Mais pourquoi cette souffrance-là plutôt qu'une autre ? C'est-à-dire, si je ne suis pas capable de connaissance, c'est que j'ai besoin de l'exil. L'exil me permet d'acquérir la connaissance. Parce que la connaissance vient quand je suis un peu extérieur à l'objet de la connaissance. Quand je suis dans l'objet lui-même, soit j'ai la sagesse, soit je dois apprendre la sagesse par connaissance. Donc je dois m'éloigner de l'objet. Donc si le peuple d'Israël n'avait pas la connaissance quand il était sur sa terre, il a dû partir pour mieux se connaître. C'est pour ça que le lieu où l'enseignement de la Torah était dispensé pendant le temps de l'exil, c'était la ville babylonienne de Nehardéin, qui veut dire le fleuve de la connaissance. Ça, c'est là que ça a été donné. Effectivement, nous sommes devenus un peuple suprêmement intellectuel pendant le temps de l'exil, énormément intellectuel, nous avons acquis des connaissances à n'en plus finir. Oui ? Non, au contraire. Non, non, le premier endroit où le roi Jéconias, Yéchonia en hébreu, est arrivé 11 ans avant la destruction du premier temple, c'était Néardéa. Oui, alors c'était l'époque du Talmud. Mais je veux dire, mais c'était la continuation de la yeshiva de Néardéa. Oui, la yeshiva de Néardéa. Celle où était le Roche Agola habitait à Néardéa. Oui. Où est-ce qu'on en était? Ve'amar Rabbi Lazar, et Rabbi Lazar disait, Kol Bait, She'enbo, She'en divrei Torah nishma'im bo balayla. Toute maison dans laquelle des paroles de la Torah ne sont pas entendues pendant la nuit, Esh Ochalto, le feu la dévore. She'ne'emar, ainsi qu'il est dit, Kol Chosher Tamun Isfonav, toute obscurité est cachée dans ses repères, Tochelehu Esh Lonupar, il sera mangé par un feu qui n'a pas été attisé, Yera Sarid Be'aolo, car il lui manque un résidu dans sa tente. C'est quoi le résidu? En Sarid et la Talmid Chachamim. Quand on dit le résidu, on parle des sages. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Uvaseridim Asher Hashem Kore, les résidus que l'Éternel appelle. C'est clair, non? C'est très simple. Il dit, une maison dans laquelle on n'entend pas les paroles de la Torah pendant la nuit, elle est brûlée. Et pourquoi la nuit? La nuit, c'est le temps de l'absence. D'accord? Pendant la journée, c'est le temps de la vie sociale. La vie existe pendant la journée. On se rencontre, on se parle, il y a des échanges. La nuit, c'est le moment où cesse la vie sociale et l'individu revient à lui-même. À partir du moment où l'homme revient à lui-même, ça pose un problème, parce que l'homme est un animal politique, disait Aristote. C'est-à-dire, l'homme est fait pour vivre en société. Et donc, quand je suis dans la nuit, il y a l'angoisse existentielle qui fait que je risque de ne plus être moi-même, je suis perdu. Je suis brûlé. Le feu était considéré par les anciens comme étant de couleur noire. Ça, le firmament qu'on voit pendant la nuit noire, les anciens disaient parce qu'il est fait de feu. Et donc, le noir, l'absence, le feu aussi crée l'absence, le feu brûle, il fait disparaître. Quand il n'y a pas la Torah pour rétablir mon appartenance à l'ordre du monde, eh bien je suis brûlé par l'absence. C'est-à-dire la Torah étant l'ordre général de tous les êtres. Donc si je veux passer la nuit en paix, il faut que j'étudie la Torah, que des paroles de Torah soient entendues dans la maison pendant la nuit. Et c'est ce qu'on appelle le résidu. Le sage, le Talmid Chacham, est un résidu du monde normal. C'est-à-dire, il y a un temps qui est le temps de la journée, où tout, il y a lumière. Ça correspond dans l'histoire des enfants d'Israël à l'époque du Beth Amikdash. Alors, la vie est entièrement pleine. Pendant la galoute, tout ce qui reste, eh bien, il reste les Talmid Chachamim. C'est ça qui reste. Donc, les Chachamim sont appelés des résidus, Sarid. C'est bien clair? Je voudrais peut-être aller élargir un petit peu ce point-là. Vous savez que pendant l'époque du Beth Amikdash, la société d'Israël était une société extrêmement variée. Il suffit de lire, par exemple, il y a un bouquin que je vous recommande, La guerre des Juifs contre les Romains, de Flavius Joseph. Flavius Joseph, l'historien, il était présent lors des événements. Il raconte exactement ce qui se passait dans l'État de Judée à l'époque, avant la destruction du Temple, quand a commencé la révolte. Il nous parle d'une société extrêmement variée, dans laquelle vous avez, en termes modernes, je dirais, des gauchistes et des hommes de droite, vous avez des imbéciles et des intelligents, vous avez là-bas des riches et des pauvres, des hommes politiques, vous avez des traîtres, vous avez toutes les opinions possibles, et également une production artistique, économique, il y a beaucoup de choses qui se faisaient à l'époque. C'était un état extrêmement intéressant. Et puis, le Beth Amikdash a été détruit. L'État a disparu. Qu'est-ce qu'il est resté du judaïsme? Les rabbins. C'est un reste. C'est pas un idéal, mais c'est comme ça que ça marche pendant le temps de l'exil. Ça a commencé avec notre maître Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui a fondé le judaïsme rabbinique pour le temps de l'exil. C'est comme ça qu'il a sauvé le peuple juif. Et donc, cette situation dans laquelle vous avez l'obscurité, c'est le temps où, justement, le Talmid Chacham vient sauver la situation. Il donne un sens au réel. De nos jours, Baruch HaShem, nous sommes sortis de la nuit, donc il y a beaucoup d'autres choses qui se font. Mais il y a aussi les Talmid Chachamim. C'est quand même important, l'étude de la Torah, même lors de l'État d'Israël. Bon. Continuons. Ve'ama Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait, nous continuons donc la réaction en chaîne des enseignements de Rabbi Elazar. Kol she'eno mehane, talmidei chachamim inechasav, tout celui qui ne fait pas profiter les sages de ses biens, et noroe siman beracha leolam, ne voit pas de signe de bénédiction jamais. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, en sarid leochlo, alken lo yachil tuvo. Il n'y a pas de résidu pour sa nourriture, c'est pour cela que ne commencera pas son bien. En sarid et la tamid rachamim, or il n'y a de résidu que les sages, chez Neymar, ainsi qu'il est dit, ou vas seridi, ma chère Hachem Koré, les restes que Dieu appelle. Donc tout ça, on voit l'importance de la connaissance. Vous avez donc ici toute une série d'enseignements qui a commencé par l'importance de ne pas priver son élève de l'enseignement. Ça amène à la récompense, à la rémunération dans le Olam Hazeh, dans le Olam Haba, la résurrection des morts et tout le bazar. D'où l'importance centrale de la connaissance et du Beit HaMikdash. Et quand il y a absence de connaissance, il y a exil, il y a souffrance. C'est pour ça qu'il faut entretenir la présence de la sagesse en Israël en faisant jouir les Chachamim de ses biens. Ve'amar Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait. Qui c'est ce Rabbi Elazar, en fait, là, qui nous parle tellement? Qui c'est ce Rabbi Elazar? Hein? Qui s'est dit? Il était. Est-ce que c'était le fils de Rabbi Shimon bar Yochai? C'est vrai que le fils de Rabbi Shimon bar Yochai s'appelait Elazar aussi, mais on l'appelait Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. On ne dit jamais son nom stam comme ça. C'est Rabbi Elazar stam comme ça, c'est pas Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Oui. Alors, il y a Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui s'appelait Eliezer, qui est un des grands Tanaïm, effectivement. Mais ici, il ne s'agit pas de Rabbi Eliezer, il s'agit de Rabbi Elazar. Donc, c'est pas Rabbi Eliezer. Alors, ça pourrait être Rabbi Elazar ben Azaria. Mais Rabbi Elazar ben Azaria est toujours nommé ben Azaria. Oui. Rabbi Elazar Modaï, toujours appelé Rabbi Elazar Modaï. Oui. Tu parles de Rabbi Elazar ben Azaria. Or, Rabbi Elazar ben Azaria, je crois que nous avons déjà dit qu'il s'appelait toujours ben Azaria. Oui. Hein? Ah, quel Rabbi Elazar c'est? C'est ce que j'essaie de vous dire. Rabbi Elazar en question n'est pas un Tana, c'est un Amora. C'est Rabbi Elazar ben Pedat, et qui est l'élève, le principal élève de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est le grand maître d'Eretz Israël après la rédaction de la Mishnah. Ne pas confondre avec Rabban Yochanan ben Zakkai, ça n'a rien à voir. Je parle ici de Rabbi Yochanan, l'autre, qui s'appelait également Rabbi Elazar Pedat. Ne pas confondre avec son élève, Rabbi Elazar ben Pedat. Et donc Rabbi Elazar, oui, c'est pas la même chose. Donc Rabbi Yochanan était, disons, le fondateur de ce qu'on appelle le Talmud de Jérusalem. La Torah d'Eretz Israël, c'est Rabbi Yochanan. Et Rabbi Elazar, c'est l'élève de Rabbi Yochanan. C'est l'élève de Rabbi Yochanan, c'est celui qui vit le moment de la déperdition de la puissance d'Israël. D'accord ? C'est à ce moment-là qu'il voit que l'époque des Amoraïm commence, et que c'est une époque où Israël n'a plus l'espoir pour très longtemps de rétablir son indépendance politique. Alors, il prend acte de l'état des choses de la galoute. Vous avez compris ? C'est pour ça que c'est important de comprendre qui c'est celui qui parle quand il y a un enseignement dans la Gemara, surtout s'il y a ici des enseignements en chaîne. Ve'amar Rabbi Elazar, et Rabbi Elazar disait, Kol she'eno me'sher pat al shulchano, eno ro'e siman bracha le'olam, celui qui ne laisse pas du pain sur sa table, ne voit pas d'abondance à jamais. C'est chez Neymar, ainsi qu'il est dit, « En sarid le ochlo », il n'y a pas de résidu de nourriture, « alken lo yachil tuvo », c'est comme cela, c'est pour ça que son bien ne commencera pas. C'est-à-dire là, on passe ici du « sarid » comme désignant le Talmid Chacham, c'est-à-dire le résidu désignant le Talmid Chacham, on passe ici au résidu du pain qu'on a mangé sur la table. On a mangé du pain et on laisse du pain à table. C'est pourquoi on laisse du pain à table, c'est qu'on est large. Plus il y a de largesse, plus il y a d'abondance. Quand on fait des comptes de ce qu'on appelle des économies de bout de chandelle, alors on s'introduit dans un système de vie dans lequel tout est compté. Donc il n'y a pas d'abondance. Il y a un enseignement qui dit exactement l'inverse. Ça, cette question est posée par la Guémara elle-même dans la ligne qui vient. De laisser du pain. Oui, exactement. C'est la question qui est posée dans la ligne qui vient par la Guémara. Veha, Amar, Rabbi Elazar. Oh, Rabbi, le même Rabbi Elazar a dit Kol Ameshayer, petit imal shulchano, kilur vedavodazara. Celui qui laisse des miettes de pain sur sa table, c'est comme s'il était idolâtre. Ah, donc c'est contradictoire. Je vois que la question que tu as posée, en fait, a déjà été posée par la Guémara. C'est remarquable. Oui. On laisse du pain. Oui. Ça, c'est la question de la Guémara. Il y a ici donc une contradiction entre deux enseignements. Le premier enseignement dit qu'il faut laisser du pain, et le deuxième enseignement dit qu'il ne faut pas laisser de pain. Ah. Il faut pour ça trouver la réponse. C'est peut-être une réponse, j'en sais rien. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, Ha'orim la Gad Shulchan, ceux qui présentent une table à Gad. Gad, c'est la fortune, c'est-à-dire c'est la déesse de du Mazal. Gad. C'est également le nom de Dieu en anglais. C'est ça? Ve'amemalim l'amni m'sach. Et ceux qui remplissent à Mani, des libations. Mani, c'est également le nom d'une avodazara et c'est également le nom de l'argent en anglais. Mani. Et Gad, Mani, vous voyez que les prophètes ont une prédilection pour la langue anglaise. Ah donc, jusque-là, c'est la question. La kashia. Non, ce n'est pas difficile. Ça, c'est quand il y a un pain entier avec, et ça, c'est quand il n'y a pas de pain entier avec. Alors maintenant, cette phrase-là, qui a l'air si simple, a donné au moins 4 ou 5 interprétations différentes, donc je vous en fais grâce. Mais enfin, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne met pas une table, a priori, pour la divinité. C'est comme si on faisait une sorte de avodazara. Parce que le lieu où on doit amener le pain, c'est le Shulchan Apanim, la table des pains de proposition dans le Beit HaMikdash. Mais si on fait ça en dehors du Beit HaMikdash, c'est une forme d'Avodah Zarah. Ve'amar Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait, si déjà on parle d'Avodah Zarah, alors on continue des enseignements de Rabbi Elazar concernant l'Avodah Zarah. Kol HaMachlif Bediburo, tout celui qui change dans sa parole, ça veut dire quoi changer dans sa parole? Celui qui ment. Le menteur. Marie Bluro, ça veut dire le menteur. Kiilur veda vodazara, c'est comme s'il était idolâtre. Ketivacha, comment est-ce qu'on le sait? Il est dit d'une part dans Yirmiyahu, il est dit dans Bereshit, Vaiti be'ainav kimta'atea, je serai à ses yeux comme un trompeur. Urtivatam, il est dit là-bas dans Yirmiya, chapitre 10, Hevel hemma ma'asetatuim, ils sont nullité, action vaine. Et là-bas, l'expression employée, c'est ta'atuim, et ça parle des idoles. Oui. Oui, alors effectivement, c'est le verset qui est amené ici, c'est un verset qui parle de Yaakov Avinu. Oui. Il y a ici un petit problème, c'est que, si c'est vrai ce que dit la Guémara, alors ça voudrait dire que le fondateur du peuple juif serait un idolâtre, alors que le peuple juif et dans le monde pour justement lutter contre l'idolâtrie. C'est quelque chose de souvent énorme. Vous comprenez, ça tient pas la route. En fait, il faut savoir lire. C'est une question de savoir lire. Reprenons le verset de Bereshit. Ve'ahiti be'enav kimta'atea, je serai à ses yeux comme un menteur, comme un trompeur. Qui c'est qui dit ça à qui? Il dit ça à Yitzhak, je serai comme un menteur. Il dit ça, non, pas à lui-même. Il dit ça à sa mère, Rivka. Il dit à sa mère, Rivka, si je fais ce que tu me dis d'aller tromper papa, je serai à ses yeux comme un trompeur. Ça veut dire quoi, comme un trompeur? Ça veut dire ce que dit Yaakov, je sais que je ne suis pas un trompeur, mais mon père ne le sait pas. Donc il va croire que je suis un trompeur et donc un idolâtre. N'est-ce pas? C'est-à-dire le kaf du mot kimta'atea, qui veut dire comme. Quand on dit quelque chose, c'est comme, c'est que c'est pas la même chose. N'est-ce pas? Et donc, j'irai même plus loin. Le verset dans Yirmiyahu, vous savez que Yirmiyahu, ça veut dire en français Jérémie. Ce qui fait que les francophones souvent se trompent et disent Yirmiyahu. N'est-ce pas? C'est une erreur. Il ne faut pas dire Yirmiyahu, il faut dire Yirmiyahu. De même qu'il ne faut pas dire Yehezkiel, mais Yehezkel. Bien qu'en français on dit Ézéchiel. Enfin bon, ça c'était tout à fait tout à fait à part. Je reviens ici au verset de Yirmiyahu. Dans le verset de Yirmiyahu, on dit comme cela, on parle là-bas des idoles, et l'expression employée c'est Hevel Hema, ils sont vanité, Maaseta Tuim, action vaine, Lochaelle Chelek Yaakov, mais ce n'est pas ainsi qu'est la part de Jacob. C'est pas écrit dans la Guémara. Mais c'est la suite du verset. Ah, il y a écrit chez toi. Il n'y a pas le pasouk. Très embêtant. Enfin, heureusement que je suis là pour vous dire le pasouk. Loka elle helek Yaakov, mais ce n'est pas comme cela qu'est la part de Jacob. La part de Jacob, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est appelé Helek Yaakov. N'est-ce pas? Qui est, comme on dit par exemple, Helki Hashem, ma part, mon sort, c'est Dieu. Et donc, Akadosh Baruch Hu se fait appeler Dieu de Yaakov, justement au moment où il disqualifie les trompeurs que sont les idoles. Et c'est exprès que c'est fait. Le prophète lui-même sait très bien ce qu'il fait quand il dit le mot metaater, parce qu'il sait que ça fait référence à Yaakov. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que Yaakov n'est pas un trompeur puisqu'il a trompé. On dit il est comme un trompeur, mais il n'est pas un trompeur. Parce que s'il était vraiment un trompeur, eh bien il serait idolâtre. Il ne peut pas être idolâtre, donc ce n'est que comme un trompeur. Mais je comprends rien, il a quand même trompé. Oui?
Non, parce qu'avant, il y a eu un passage de droit de naissance.
Oui, c'est-à-dire que, étant donné que Yaakov avait acheté le droit d'aînesse, ce que Yitzhak ne savait pas, donc il était en droit de réclamer la bracha pour lui. Donc il n'est pas vraiment trompeur. Il est comme un trompeur. Mais en fait, il fait ce qu'il doit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mensonges qui font partie de l'établissement de la vérité. Alors c'est plus un mensonge. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Providence a voulu que Yaakov reçoive sa bénédiction d'une manière aussi tortueuse? Eh bien, c'est pour nous apprendre à être droit dans un monde tordu. C'est-à-dire s'il n'y avait pas eu cette histoire, alors on aurait été basé uniquement sur un comportement absolument droit, mais qui n'est pas capable de confronter la réalité de ce monde. Or, dans ce monde, il y a beaucoup de torsions, de tortuosité. Et donc, il faut absolument que notre ancêtre passe par un problème qui a l'air d'être une tromperie pour nous donner les forces à nous autres, ses enfants, de confronter ce genre d'histoire. Voilà, vous avez compris. Bon, oui. Hamsa Alek. Oui, comment tu dis? Ah oui, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est-à-dire, nous autres, les Israéliens, nous rétablissons la justice et la paix dans le monde par des comportements qui sont condamnés par les nations. N'est-ce pas? Mais nous le faisons pour eux. C'est pour leur bien que nous le faisons. C'est-à-dire que nous savons mieux qu'eux ce qui est bon pour eux. D'accord? Nous voulons faire le bonheur des gens malgré eux. Véhama Rabbi Lazar. Et il continue Rabbi Lazar. Pas fatigué hein, aujourd'hui. Kol amistakel be'arva, celui qui contemple la nudité, c'est-à-dire la pornographie, toutes ces choses-là, Kashto ninaeret, sa virilité est détruite. Chez Nehemar, Eria te or kashtecha. Car il est dit, la nudité détruit ta vigueur. Quel est le rapport de cet enseignement avec ce que nous avons eu jusqu'à présent? Ben c'est simple, c'est tout simple. Si on cherche la vérité, alors on ne cherche pas la jouissance. Et donc, quand on est perdu par l'attirance des visions malsaines, eh bien, on perd la connaissance. Ve'ama Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar disait, Ele olam heve kabal vekayam. Sois toujours bien caché pour subsister. C'est-à-dire, si tu te mets en évidence, tu t'exposes au danger, si tu veux tenir le coup, comme on dit, baisse le profil. Et Amar Rabbi Zera, et Rabbi Zera a dit de cela, Af anan namet nina. Mais ça, on l'a dit déjà dans la Mishnah. Bait afel, en potrin lo halonot lirot nigo shmarmina. Une maison obscure, on n'ouvre pas de fenêtre pour voir sa plaie. Ça veut dire quoi? Si vous savez qu'il y a dans la lèpre, il y a différentes sortes de plaies. Il y a la lèpre sur la peau, il y a sur les vêtements et sur les murs des maisons. Et il y a des règles différentes. Quand ça arrive à la maison, ça peut parfois entraîner dans certaines situations la destruction de la maison. Maintenant, le problème, c'est que la maison ne devient impure que lorsque le Kohen a déclaré qu'elle était impure. Et donc, avant que le Kohen n'entre dans la maison pour voir ce qui se passe, on fait sortir tous les meubles pour ne pas les rendre impurs. Parce qu'un meuble qui est dans une maison impure, eh bien, le meuble aussi est impur. De même, la nourriture et tout le reste. Mais, donc le Kohen entre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas assez de lumière dans la maison? Il faut bien voir, quand même, si c'est la couleur indiquée par la Torah ou pas. Il faut le jugement du Kohen. Alors, s'il fait sombre, on pourrait dire, dans ce cas-là, pas de problème. On va ouvrir une fenêtre dans le mur pour mieux voir. La halakha dit donc, s'il n'y a pas assez de lumière, on ne regarde pas. On ne regarde pas et la maison reste pure. Ça veut dire que ça s'est pris comme une métaphore pour dire si dans une maison sombre on n'ouvre pas la fenêtre, ça veut dire que celui qui est dans l'obscurité, celui qui reste, qui se met à carreau, quoi, comme on dit, eh bien il ne sera pas examiné. Et vous savez, c'est toujours comme ça en politique, si vous faites de la politique ou une action publique, alors là on va vous vérifier. Voilà, ça jusque-là, tous les enseignements, enfin, il y a une quantité assez énorme d'enseignements de Rabbi Elazar. Mais notre sujet central, c'est quoi? Kriyat HaMetim, la résurrection des morts. Dans ce cas-là, il faut y revenir. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Yoshia. Rabbi Tavi disait au nom de Rabbi Yoshia, Maï dirtiv, que signifie ce qui est écrit dans le livre de Michelet, les proverbes, She'ol ve'otzer rehem, Eretz lo savera maim. Sheol, ça veut dire les enfers, enfin le séjour des morts, ou la tombe. C'est ça? Donc la tombe et l'infécondité. Otser rechem, ça veut dire quand la matrice est arrêtée. Eretz lo savera maim, c'est comme une terre qui n'est pas rassasiée d'eau. D'accord? C'est-à-dire, la tombe, c'est, ne cesse d'engloutir les gens. Otserechem, la stérilité, tout ça, ce sont des choses qui entraînent, qui s'abreuvent à la manière d'une terre desséchée. Vechima inyan sheol etzel rechem. Quel est le rapport entre la tombe et la matrice? Bon, vous savez que c'est très intéressant ça, parce que en psychanalyse, on met un rapport direct entre la vie et la mort. C'est le principe du Eros Thanatos. Il y avait un juif du nom de Freud, Sigmund Freud, qui a expliqué qu'il y avait deux instincts centraux dans le subconscient humain. L'un, l'instinct de vie ou d'amour, qu'on appelle Eros. Et il y a l'autre, c'est le nom d'une divinité grecque. Et l'autre, c'est l'instinct de mort, Thanatos. Et que l'un engendre l'autre. Et effectivement, donc, il y a un rapport entre la tombe et la matrice. La matrice qui donne la vie et la tombe qui reprend la vie. Il y a également cette idée que le corps humain, c'est une parole des anciens, des pythagoriciens, que le corps, c'est la tombe de l'âme. C'est-à-dire, on est arrivé dans un corps, on est comme dans un tombeau. Et ça se passe à quel moment ? Au moment de la naissance. Il y a à ce propos un minhag intéressant chez nos frères ashkénazes, qu'on appelle le Shulem Zucher. Shulem Zucher, ça vient de l'hébreu Shalom Zachar. C'est un usage qui est lors de la naissance d'un enfant mâle, lors du vendredi soir, donc le premier Shabbat après la naissance, on fait une petite fête. La petite fête consiste à inviter les gens et on mange là-bas des aliments ronds. Ronds. Par exemple, des pois chiches, surnommés pour la circonstance Arves. Et donc, on dit les livres Torah, on dit comment est-ce que va l'heureuse accouchée, comment va le petit, etc. Et puis, on se sépare après avoir dit les livres Torah et manger des pois chiches. Et la raison de cela, c'est qu'on dit que c'est un... Enfin, vous savez, quand on mange des aliments ronds, c'est un aliment de deuil. En fait, c'est un repas de consolation. On vient consoler la Neshama d'être descendue de si haut et d'être arrivée chez nous. Alors, on lui fait la fête. On lui fait une petite fête. Pour la consoler. D'accord ? C'est comme si le Gan Eden, c'était le lieu de la vie, et puis on tombe dans une tombe, c'est-à-dire le corps. D'accord ? C'est une forme. Et donc, il y a tout un travail de triatamétime. La triatamétime, ça voudrait donc dire qu'il faudrait rendre vivant ce lieu qui est en lui-même une tombe. D'accord ? C'est ça le travail. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les filles? Si effectivement on considère que tomber sur terre, c'est une forme de mort. Donc on devrait le faire également pour les filles. C'est un texte, je crois que c'est un texte que nous avons étudié dans le livre de Bereshit, n'est-ce pas? C'est que les femmes, elles, ne sont pas tombées du Gan Eden, elles y sont encore, d'une certaine manière. Dans l'être féminin, il y a une appartenance au spirituel. Il y a également des ressemblances surprenantes dans les différentes langues entre ce qui désigne la mort et ce qui désigne la naissance. Par exemple, une tombe en hébreu se dit kever. Et que veut dire les lettres du mot boker? Le matin, le moment où la vie est donnée. Il y a par exemple en anglais, pour dire le deuil, prendre le deuil, mourning. N'est-ce pas? Et le matin? Morning. N'est-ce pas? En allemand, comment se dit le matin? Morgen. Et morgen. Et que veut dire le mot morgue? La morgue. C'est en allemand aussi, morgue. C'est-à-dire, il y a toujours un rapport entre la vie et la mort. En français. Comment? En français. Il y a également un lien, j'ai oublié comment... Mais enfin, il y a des dans différentes langues, j'ai lu un ouvrage là-dessus, sur, disons, des associations de mots entre les différents doublets, comme ça, dans différentes langues. Mais enfin, bref, je ne sais plus comment c'était en français, mais en français, j'ai oublié. Il y a probablement quelque chose également. D'accord. Où est-ce qu'on était? Donc, il y a ici la question de la Gemara. Ma inyan sheol etzel rechem. Que fait la tombe auprès de la matrice? Et là, l'omar lechem. Cela vient te dire. Ma rechem machnis umotzi. De même que la matrice introduit et fait sortir. C'est-à-dire, dans la matrice s'introduit le sperme. Et il fait sortir un enfant. Af Sheol machnis umotzi, de même, la tombe fait introduit et fait ressortir. Donc, la tombe, c'est une sorte de matrice. Ve'alot varim kalvachomer. Et en fait, c'est un raisonnement a fortiori. ומה רחם שמכניסים בו בחשאי? מוציאים ממנו בקולי קולות. La matrice, on est introduit dans le secret, c'est-à-dire ça se fait dans l'intimité. Motsi mimenu bekole kolot, ce qui en sort, sort avec beaucoup de cris. N'est-ce pas? Sheol, shemachnisim bo bekolot. Alors la tombe dans laquelle on introduit en criant, dans les enterrements, il y a des lamentations. Et nos din shemotsi mimenu bekole kolot. Cela veut donc dire que ça, on en sortira avec des voix de voix. Mikan teshuva la omrim, cela est une réponse à ceux qui disent entehiyat amitim minatora, qu'il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah. C'est-à-dire que la Torah voit que le livre de Michelet compare la vie à la mort, donc de même que la matrice à la tombe, de même que la matrice donne la vie, donc de même la tombe donne la vie, et donc la tombe est une forme de matrice, ça veut donc dire qu'il y a résurrection des morts. Tana de Viliaou. On a enseigné dans la maison du prophète Élie. C'est quoi la maison du prophète Élie? Vous avez déjà été dans la yeshiva d'Eliyahu Hanavi, vous? Bet Midrash, quoi. Tu as déjà été dans le Bet Midrash d'Eliyahu Hanavi? Il y a un Bet Midrash comme ça du temps des Chachamim à la Gemara? Alors, il y a un enseignement du Maharal de Prague qui dit que c'est quoi Tana de Viliaou? Ce sont des Chachamim qui étudient ensemble, ils discutent. Et puis, lors de la discussion, il est évident qu'un argument a été présenté, un enseignement a été dit, mais on est incapable de dire qui parmi les personnes présentes a dit cela. Ça s'appelle Tana de Viliaou. Alors, on a discuté pendant une heure ensemble, on sait très bien qui était présent, qu'est-ce que chacun a dit, et on n'arrive pas à dire, mais comment ça se fait qu'on est arrivé à cette conclusion? Personne ne l'a dit, c'est ça Tana de Viliaou. Donc, c'est ça, il y a un enseignement de Eliyahu Hanavi. Cet enseignement est très important, il concerne la nature de la résurrection des morts. On en parlera évidemment la prochaine fois. Shalom.